Diane Dupré-Latour, Étienne Touveneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux cofondateurs des Petites Cantines, un réseau de cantines participatifs à but non lucratif. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà ces Petites Cantines et ce projet, et vous en même temps?
On commence toujours par se regarder pour se dire lequel des deux va parler. Les Petites Cantines aujourd'hui, c'est un réseau de cantines de quartier dont l'objectif principal est de permettre aux habitants de se connecter les uns avec les autres, de se rencontrer et après de vivre ce qu'ils veulent avec ces relations. Et on leur propose de le faire à travers le repas. C'est-à-dire que ceux qui veulent viennent manger, se rencontrent avec les gens qui habitent dans le quartier, qui travaillent dans le quartier. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, venir préparer le repas ensemble, qui a une autre occasion de se rencontrer.
Une petite cantine, ça ressemble à une grande cuisine ouverte, au pied d'un immeuble. Donc quand vous rentrez, vous êtes accueilli par un maître ou une maîtresse de maison qui va faire en sorte que vous vous sentiez bien. Vous allez voir une cuisine, donc les plans de travail, le frigo, l'évier, et puis des grandes tables en bois, et chacun peut venir se mettre à table les uns avec les autres.
Ah, c'est un projet que vous avez cofondé, comme je disais. L'idée est venue d'où? C'est une idée commune, c'est l'un de vous qui a eu cette idée, qui a demander à l'autre de venir.
L'idée est née dans la tête et dans le cœur d'Étienne, mais elle est aussi la petite étincelle qui est née de notre rencontre. Moi, en 2013, j'ai perdu mon conjoint dans un accident de voiture. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une urgence à faire quelque chose d'autre de ma vie. Et peut-être à développer un potentiel qui était encore un peu endormi en moi. Et j'ai recherché autour de moi avec qui j'avais envie d'entreprendre quelque chose. Et donc, je me suis tournée vers Étienne.
Voilà, moi, ça faisait un petit moment que je réfléchissais à l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat social. Et je voulais pas partir seul, donc j'avais plusieurs idées en tête, mais j'avais besoin de les porter avec d'autres. Et quand on s'est revus avec Diane, parce qu'on se connaissait, à un moment, on a dit, mais tiens, on est tous les deux dans une démarche d'entrepreneuriat et on a pris le temps de discuter ensemble pour s'apercevoir durant le repas qu'en fait, on était alignés sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et après, ben voilà, cette idée est venue sur le tapis et on l'a beaucoup changée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'idée de départ. Mais on a, dans ce projet, dans la réalité d'aujourd'hui, mis ce qu'on avait en fait dans le cœur l'un et l'autre, et c'est ce qui donne ce projet. Et puis beaucoup de personnes sont venues aussi compléter ce projet et faire ce qu'il est aujourd'hui.
Quand vous avez décidé en fait de fonder les Petites Cantines ensemble, ça a été au-delà du fait d'être une femme, Diane, ou d'être un homme, Étienne, de travailler avec un homme ou une femme, c'était vraiment une rencontre de personnes.
Non, c'était pas un de nos critères de choix au démarrage. En fait, on a appris à se connaître. Donc on s'était pas fixé d'échéance, de date. On s'est juste dit, on démarre un chemin ensemble et on verra bien où est-ce qu'il nous amène. Et on a beaucoup plus été attirés par notre complémentarité. La différence homme-femme en fait partie. Mais je pense qu'on ne l'avait pas du tout conscientisé au départ. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on avait recherché comme une fin en soi.
D'accord. Et alors, je fais juste une petite note, parce qu'en faisant des recherches, je me suis rendu compte que dans les cofondations d'entreprises, seulement 9% des hommes font appel à une femme pour co-créer une entreprise, alors que 61% des femmes font appel à un homme pour co-fonder. J'ai trouvé ça assez fort, donc voilà, vous êtes...
Nous, on n'a pas fait appel, en fait.
Non. Oui, enfin, vous êtes rencontrés.
On n'est pas dans cette démarche-là. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment la rencontre qui a fait que ça débouchait. On aurait rencontré quelqu'un d'autre, on aurait peut-être fonctionné avec quelqu'un d'autre, mais là, on était alignés. Et c'est ça, moi, qui m'intéressait. Le fait d'avoir quelqu'un qui ait une vision de la société très proche de la mienne et en même temps avec un prisme différent. Voilà, parce qu'on a nos vécus différents et on le sent bien quand il y a le fit qui passe et qu'on sait qu'on va, allez, on va pouvoir dépoter et on va pouvoir y aller. Et puis après, ben, par contre, quand on se met en action, là, on voit aussi des différences. On pense pareil, mais pas toujours pareil. Et puis dès qu'on retourne en fait à l'essentiel ou pourquoi on le fait, là, on se retrouve.
Après, pour moi, il y a eu aussi autre chose dans la rencontre avec Étienne. C'est que je cherchais ce bon point d'équilibre entre des communs et une forme de distance, une forme d'écart dans le regard qui allait être une marge de progression pour moi. Je sentais que pour moi, la confrontation, parce que parfois c'est quand même vraiment une confrontation, avec Étienne allait être une occasion pour moi de grandir. Et réciproquement, je pense que j'avais conscience aussi de ce que je pouvais lui apporter. Donc ça, ça produit une notion d'enrichissement réciproque qui soutient une forme d'équivalence dans la relation qui permet cette relation de confiance en fait. Donc, mais ensuite, ça restait une petite graine à faire grandir. Il fallait quand même la faire germer. Et j'ai fait aussi attention à ce que... En fait, avec Étienne, on se connaissait, mais on se connaissait quand même pas très bien. Ça veut dire qu'il y avait quand même un peu un terrain vierge dans la relation. Les enjeux affectifs étaient suffisamment, on va dire, légers pour qu'on puisse avoir une page blanche devant nous et l'écrire à deux avec ce qu'on avait envie de mettre dedans. Ça, c'était important.
Quelque chose à ajouter, Étienne ?
Je crois qu'en effet, la confiance, en fait, au tout départ, je crois que l'un et l'autre, on s'est fait énormément confiance. C'est-à-dire qu'on a dit, en fait, on lâche tout, ce qui nous permettra de voir où on ira. On n'est pas venu se tester, vérifier que l'autre était capable, etc. On s'est beaucoup écouté. On a fait beaucoup de travail en disant, moi, Étienne, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ce projet ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Diane s'est posé les mêmes questions, on s'est partagé. Et on s'est aussi partagé en disant, en quoi je te fais a priori confiance ? Parce qu'en fait, on a une image de l'autre. Moi, je me souviens très bien de ce moment-là qui a été très formateur dans notre binôme parce que, on savait très bien l'image que l'autre avait de soi. Et c'était une très bonne base. On a mis en place rapidement des météos pour se dire comment ça va, etc., mais aussi des temps de vérité où l'autre ne réagit pas. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux te dire ce que j'ai vécu à tel moment, comment j'ai ressenti, la manière de présenter le projet ou une prise de parole. Au moins, l'autre, il entend. Il en fait ce qu'il veut derrière, mais c'est dit. Et c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, fonctionne et fait du bien. En fait, dès qu'on a cette occasion, on repart sur des basses scènes parce que les choses se sont dites.
Nous avons eu besoin de déconstruire l'image qu'on avait l'un de l'autre. Et c'est très drôle, je ne m'attendais pas à entendre une perception qu'Étienne pouvait avoir de moi quand on ne se connaissait pas très bien. Je ne me rendais pas compte. Je me souviens, un jour, tu m'avais dit que tu étais un peu impressionnée par... je sais plus, quelque chose. Je me suis dit, ah bon ? Et en fait, moi, c'était plutôt l'inverse. Et en même temps, en fait, quand on est impressionné par quelqu'un, parfois aussi, il y a de la déception derrière. Donc, il a fallu vivre ces choses-là. Et du coup, ça nous a permis d'être d'accord pour être transparents sur nos fragilités réciproques. Et ça permet, par exemple, dans le TGV... pour arriver jusqu'ici, on a eu besoin de faire un instant vérité entre nous sur un thème qui était très drôle en fait. On a eu une sorte de petit rapport de force ces derniers jours sur la question de la fragilité, comme on avait envie de parler de la fragilité au cœur du projet. Et à la fois sur le fond et sur la forme, on n'avait pas pris le temps de bien s'aligner sur la manière d'en parler. Et on s'est dit, c'est rigolo qu'on soit sur un rapport de force sur cette question de la fragilité. Et en fait, simplement s'offrir ce temps d'écoute, c'est un cadeau pour l'un et pour l'autre. Comme le dit Étienne, on n'est pas obligé de réagir. Et en fait, il y a des petits nœuds qui se défont, parce que chacun peut prendre conscience que, ah oui, ce thème a fait écho en moi à telle chose. Et j'entends ce que tu dis, voilà. Et du coup, on s'aperçoit que l'alignement, il vient de quelque chose qui est encore plus loin que ce qu'on avait verbalisé jusqu'ici. Ça nous fait faire à chacun un pas devant, voilà, grâce à l'autre.
Et en fait, c'est souvent quand on n'a pas de discussion, on va réinterpréter en fait des écrits, parce qu'on communique beaucoup, par écrit aussi, en disant « je remets l'autre dans une case en fait ». Et donc du coup, s'il a dit ça, c'est que... Et on fait tout le scénario à l'inverse. Puis après, on relit, on fait... non, en fait, il n'y avait aucune raison factuelle. Donc voilà, le fait de se parler, mais dans un sas particulier, ça vient vraiment aider le binôme.
Et l'écoute, c'est l'écoute de l'autre, mais c'est l'écoute de soi. Qu'est-ce que j'ai ressenti quand l'autre m'a écrit ça ou m'a dit ça ? Qu'est-ce qui s'est passé chez moi ? Ok, il s'est passé ça. Ok, donc je peux l'expliquer à, voilà.
Vous avez mis en place un vrai espace de communication, d'écoute et de parole qui vous a permis en fait effectivement de vous rencontrer l'un l'autre et d'aller encore plus à la rencontre de vous-même.
Au début, c'était nécessaire. Enfin, je pense qu'on ne serait pas allé loin sans ça. Il y a en effet le rapport à beaucoup d'éléments, le rapport à l'argent, le rapport au pouvoir, le rapport aux médias. Enfin, c'est tous des éléments où ça vient nous chercher en fait, notre besoin de reconnaissance, etc. Donc oui, on a eu besoin et on a vu tout le bien que ça nous faisait. Et donc aujourd'hui, c'est moins fréquent, mais on voit qu'on en a besoin et quand on ne le fait pas, ben, ça peut commencer à créer des tensions.
Vous aviez déjà l'un et l'autre créé une entreprise avant, seul ?
Non, jamais.
Mais... C'est une belle première aventure ensemble.
On a été investis dans des projets différents, mais jamais en tant que cofondateur ou une structure hyper formalisée. Fin...
Et entre vous et l'équipe, est-ce qu'il y a des tâches, alors notamment je vais commencer par vous deux, mais des tâches spécifiques que vous êtes distribuées dès le départ ou après dans l'évolution du temps et du projet, ou ça s'est fait de façon assez, assez au jour le jour de voir qui gérait quoi?
La question de la répartition des rôles est très importante et on n'a jamais fini de la creuser. Elle est d'autant plus importante qu'on a choisi aux petites cantines de grandir selon les principes de la gouvernance partagée. C'est-à-dire qu'on cherche à entrer dans des relations d'équivalence entre nous et en fait à ce que le pouvoir soit un pouvoir d'eux plutôt qu'un pouvoir sur les autres. Et ce pouvoir d'eux, nous, on va le vivre en travaillant ensemble, collectivement, sur la définition de notre projet et de sa raison d'être. Plus cette raison d'être sera claire, plus cela favorisera l'autonomie décisionnelle, puisque chacun sera en mesure de dire « je prends mes décisions à l'aune de cette raison d'être et de l'ADN des petites cantines ». Donc, notre premier devoir, ce n'est pas tant de monter des process incroyables d'une complexité dont je vous passe les détails, que de clarifier. Donc je dois laisser sa souveraineté à la personne dont c'est le rôle. Voilà. Donc la question des périmètres, oui, elle est très importante. Et n'enfermons pas, nous ça a été surtout un sujet de départ, ne nous enfermons pas mutuellement dans des rôles dits masculins ou dits féminins. Ça, je me souviens d'une tension qu'on a eue au démarrage du projet, enfin que j'ai eue plutôt, je pense que c'est surtout moi qui l'ai eue. C'était, je crois, à l'occasion d'un document de présentation, je crois, un de nos premiers documents de présentation, où j'ai dit à Étienne, alors je ne sais plus très bien comment je l'ai dit, mais pourquoi c'est toujours toi qui es devant, ou c'est toujours toi qui présente en premier, c'est pas juste. Et Étienne m'a répondu, mais regarde, quand tu as fait le document de présentation, tu as mis nos deux noms, pourquoi tu as mis le mien en premier? C'est toi qui nous enferme dans ce rôle. Moi, je dis, ah ben oui, t'as raison. Et du coup, il a fallu que j'ose occuper un rôle que par défaut, Étienne occupait, parce qu'il faut bien l'occuper. Mais ça n'a pas été si facile.
Ensuite, sur la répartition, en effet, on est parti de nos envies, de nos compétences et de la confiance. Ce qu'on a vite mis en place, c'est aussi de se dire, il ne faut pas qu'on cherche en permanence que l'autre soit au courant ou soit d'accord en amont. On a eu toute une phase où il fallait, entre guillemets, dépoter. Et on a posé ça en disant, je préfère que tu donnes un accord, que tu y ailles, plutôt que d'attendre mon avis, parce que sinon, on n'avancera pas. En sachant qu'on pourra toujours, éventuellement, si c'est vraiment quelque chose de non négociable, revenir après. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dit à un partenaire, etc., ah bah oui, que derrière, on ne peut pas lui dire non. Donc ça nous a permis d'avancer beaucoup de choses. Ça, c'était...
Oui. Derrière la question de la répartition des rôles, il y a la question du pouvoir et de l'autorité. Et du coup, cette dynamique de grandir en gouvernance partagée, moi, je prends conscience que On parle beaucoup de projets collectifs, de projets participatifs. Mais en fait, le cœur du sujet, c'est d'abord moi. Comment je vis ma relation au pouvoir, en fait. Comment je réagis quand je sens qu'un groupe est bloqué, n'arrive pas à avancer. Est-ce que ça me met en colère? Est-ce que je me sens impuissant? Est-ce que j'ai envie de prendre la main? Est-ce que je me sens paralysée? Est-ce que j'ai envie de m'exclure du groupe? Donc en fait, la question du collectif est d'abord une question individuelle. C'est d'abord quelle responsabilité je suis prête à prendre au sein de ce groupe, avec tout ce que ça comporte de côté inconfortable. On n'a pas tous envie de prendre les mêmes responsabilités.
Et c'est vrai qu'en fait, autant au début on était sur une relation de binôme, où on prenait les décisions à deux, il fallait qu'on s'ajuste, derrière on a fait le choix ensemble de se dire on veut aller au-delà. C'est-à-dire que dans le mode de fonctionnement où il y aura plus de personnes embarquées, est-ce qu'on continue à dire Diane et Étienne, c'est la tête, on organise en dessous et de toute façon c'est toujours nous qui viens, ou bien on se dit eh ben non, en fait, nous, on souhaite que quand on embauche quelqu'un, en fait, qu'il vienne avec sa compétence, son regard, et donc du coup, définir des interlocuteurs pour les associations territoriales, comment on fait circuler l'information. En 5 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes très, très différentes.
Moi, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est quand j'ai l'impression que quelqu'un de mon entourage m'enferme dans un rôle et attribue à Étienne un rôle. Quand je lui parle du projet des petites cantines. En gros, Diane, elle va être en cuisine et Étienne, il va s'occuper des finances. Non, mais ça...
En même temps, il y a moins de risques comme ça. Moi, à la cuisine.
Eh ben, il fait très bonnes spaghettis carbonara et on s'en régale. Mais en fait, c'est drôle, ce sentiment de sécurité que les gens ont quand c'est un homme qui leur parle des finances ou ce sentiment de sécurité que les gens ont quand c'est une femme qui leur parle de cuisine. Bah, nous, c'est pas comme ça qu'on vit les choses. D'abord parce que, ok, l'activité, c'est la cuisine, mais en fait, le métier, ça reste l'animation de communauté, donc la qualité relationnelle, et que ça, c'est une appétence très forte chez Étienne. Et puis ensuite, parce que les chiffres, c'est quelque chose de très stratégique. Donc, ok, moi, j'ai une formation plutôt littéraire, et ça, mais en fait, derrière les chiffres, il y a du sens. Et ça m'attire beaucoup, en fait. Je suis très attirée par le sens qu'il y a derrière les chiffres. Donc parfois, je m'auto-énerve avec la perception que je me fais de ce que me renvoient les gens. J'ai remarqué aussi, parce que quand on dit les petites cantines, c'est un mot qui peut faire très féminin dans son imaginaire. Le mot cantine, le mot petite, ça véhicule un imaginaire féminin. Et en cantine, on observe quand même qu'il y a plutôt plus de femmes en cantine parmi nos adhérents que d'hommes. Or, nous, dans notre projet, on a envie de vivre l'altérité. Donc, c'est important qu'on maintienne un certain équilibre. Un de nos réflexes pourrait être, alors c'est qu'il faut proposer plus d'activités en dehors de repas qui attireront les hommes, par exemple des matchs de foot ou des trucs comme ça. Oh, au secours. En fait, je m'aperçois que si on va dire, les petites cantines sont un projet en phase de changement d'échelle qui propose un modèle économique fondé sur la contribution libre, blablabla. Là, les hommes vont être tout oui. Si, parce que je parle de structuration, modèle éco, etc. Si je parle de cuisine, d'alimentation durable, de lien social, de chaleur humaine, alors là, les femmes vont être tout oui. Et en fait, en changeant simplement nos éléments de langage, c'est toujours le même projet, mais on va arriver sur un terrain plus familier à certains publics. Une fois qu'ils sont attirés, ils vont s'intéresser à beaucoup d'autres choses qui répondent, se sentir reliés les uns aux autres, c'est un besoin primaire chez les hommes et chez les femmes. S'intéresser à la question de l'économie, parce que c'est notre manière de faire société ensemble, ça intéresse les hommes et les femmes. Donc c'est juste, comment on invite les gens en fait? Comment on parle un langage supposé être plus familier à cause de notre culture et de notre éducation.
On aime bien, avec Diane, présenter le projet des petites cantines tous les deux, justement pour montrer ces différents aspects. Et puis, de temps en temps, on sait jouer, soit inverser, en effet, les rôles préconçus. Et puis, on voit aussi, de temps en temps, les interlocuteurs qui sont, en effet, eux, très stéréotypés. Et du coup, parfois, on rentre dans leur jeu. Enfin, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour les convaincre de quelque chose, si, du projet, mais de savoir si on le porte mieux l'un ou l'autre.
Vous l'avez senti justement, ou vous le sentez encore, cette idée parfois qu'on met dans des cases, parce qu'on est un homme ou parce qu'on est une femme, on va vous attribuer telle compétence ou telle qualité?
Pas tant que ça, dans le sens où il y a peut-être la surprise de départ, mais quand Diane explique les choses, le projet, où est-ce qu'on va, je pense que derrière les gens se disent « Waouh, c'est super clair, c'est hyper structuré, hyper carré ». Donc je crois que Diane rassure très vite sur ces aspects-là. Je ne sais pas si je rassure autant du côté de la cuisine.
Mais si.
Mais ça, c'est mon complexe peut-être. Mais je m'y suis mis, et ça, c'est l'un des impacts des petites cantines, c'est que je cuisine petit à petit.
Et vous avez davantage d'hommes ou de femmes, justement, qui se proposent, ou il n'y a pas trop de différence ?
Aujourd'hui, parmi les candidats, peut-être qu'on a un petit peu plus de femmes parmi les candidats au poste de maître de maison. Quand on regarde dans toute l'équipe, leur manière de contribuer à enrichir le savoir-faire des petites cantines, il y a une équivalence. En fait, ce qui va jouer, ça ne va pas être est-ce que je suis un homme ou une femme, ça va être mon assertivité. Ça va être quel rôle est-ce que je suis prêt à jouer dans le groupe ? Est-ce que je suis prêt à vraiment dire ce que je pense, à avoir un esprit critique et à savoir le dire avec la bonne forme ? J'ai une amie qui me dit ni paillasson ni hérisson. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se coucher devant les autres, il ne s'agit pas non plus d'hérisser les poils dès qu'il y a un truc qui ne nous va pas, mais il faut savoir ce qu'on pense. Tout le monde ne le sait pas, tout le monde ne le conscientise pas. Et ensuite, il faut savoir le repartager et être convaincu de la légitimité de ce qu'on dit. Voilà. Même si c'est un peu un regard de traverse par rapport au regard des autres. On sait très bien que c'est en tournant ensemble ce kaléidoscope des points de vue qu'on va accoucher ensemble du projet qui ira le plus loin possible. Donc voilà, on va pas regarder si c'est un homme et une femme, on va regarder est-ce que tu es en mesure de contribuer au projet, c'est-à-dire d'apporter ton point de vue et de recevoir et d'accueillir celui des autres. Et ça s'apprend. Dans le sens où c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous-mêmes. Je pense qu'en moi, j'ai des aspects dits masculins et des aspects dits féminins, et que je dois sans cesse assumer ces deux aspects de ma personnalité. Et la confrontation avec Étienne permet de les développer de manière harmonieuse. Et je perçois chez Étienne des aspects dits très féminins. Alors, c'est vraiment des mots fourre-tout, mais ça veut dire que... Enfin, je dirais, le fait que... Moi, j'ai quatre enfants. Et le fait que je sois passée par cette expérience de la grossesse et de l'accouchement m'a fait comprendre que j'ai pas forcément besoin de faire quelque chose pour que ça grandisse. Il n'y a rien besoin de faire pour la grossesse. L'enfant grandit tout seul, j'ai juste à accueillir et surtout pas freiner les contractions parce que je vais juste empêcher le travail de se faire. Et du coup, le fait d'accueillir et de laisser grandir, ça, moi, je le perçois comme typiquement féminin. Et dans mon esprit, le côté masculin, c'est le côté un petit peu plus conquérant, un peu plus « je retrousse les manches, je vais agir, je vais faire quelque chose ». Mais c'est aussi très développé chez moi, ça, ce besoin d'action. Et chez Étienne, je perçois des notions de grande attention à l'accueil, à la qualité de l'accueil. Je perçois des notions de douceur dans les relations, aussi bien que ce besoin de faire grandir et développer un projet. Donc, moi, je pense plutôt que plus, en fait, cette relation homme-femme sera vécue harmonieusement en soi, plus la relation avec l'homme ou la femme en face sera vécu comme apaisé.
Pour moi, c'est ce qui m'a plu dans notre manière d'avancer, c'est qu'on pouvait être qui on était. C'est-à-dire que moi, avec mes traits, et je cherche ni à les cacher, ni à les développer, je suis comme ça. Et ben, le fait de pouvoir l'être, c'est ça qui est génial. Pouvoir s'épanouir et penser ce qu'on pense, le partager. Ensuite, c'est vrai que au démarrage de notre binôme, un homme, une femme, il peut y avoir des rapports de séduction qui peuvent exister. Moi je les ai conscientisés. Je me suis dit, faut être clair sur les trucs. Je crois qu'on en a parlé. Une fois qu'on pose les choses, c'est transparent. Enfin, c'est très bien.
Oui, c'est sain. D'autant plus qu'en travaillant ensemble. En fait, ça fait un très beau duo.
Moi, ce qui m'a rassurée chez Étienne, c'est le fait que je pouvais avoir envie que le projet réussisse et que je réussisse à travers lui. Donc cette notion de réussite qui était importante dans mon tempérament, donc avec la notion d'échec hein, qui est derrière, sans qu'il se sente remis en question par ce désir-là. Qui, je pense, c'est bon, il faut simplement voir ce qu'on en fait. Et inversement, peut-être que Étienne peut épanouir, mais je ne veux pas parler à ta place, enfin, voilà, une partie de lui-même qui n'a pas toujours sa place quand on est quatre supérieurs dans un grand groupe. Et moi, c'est juste un cadeau pour moi aussi que cette partie-là s'épanouisse, en fait. Moi, je peux parler pour toi.
Non, pour moi, le duo, oui. Enfin, moi, je suis très heureux de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent. C'est un duo qu'on a construit. On a passé beaucoup de temps à le construire avant même le projet. C'est un duo qu'on continue à nourrir. Et aujourd'hui, c'est un duo qui dépasse le duo. Et ça, c'est très important aussi de se dire comment chacun dans ce projet trouve sa place. Et là, je pense que c'est encore des endroits où on a un travail à faire. De nourrir notre duo parce qu'il existera toujours, ne serait-ce que le statut du cofondateur et cofondatrice, il restera tout le temps. Mais comment ça ne vient pas mettre un chapeau et empêcher d'autres de s'investir dans le projet ?
Notre duo n'est pas à la tête des petites cantines. Il est au milieu de l'équipe, au milieu des maîtres de maison, au milieu des administrateurs, au milieu de l'équipe support. Parce que quand on est cofondateur, on est au niveau des racines du projet. Mais les branches, c'est les autres.
Diane Dupré-Latour, Étienne Touvenot, merci beaucoup pour ce moment de partage et d'échange très riche. Et puis une belle route aux petites cantines et puis à vous deux. Merci beaucoup.
Merci.